ce café littéraire, bon, je me doutais bien que les fanatiques religieux, ça allait passionner l'assistance, et je ne me suis pas trompé. On va donc aborder ce thème particulièrement fréquent en fantasy, plus d'ailleurs un peu aussi dans la science-fiction, à travers vos différents ouvrages. Donc parmi nous, Pierre Bordage, qui s'intéresse à ces questions depuis longtemps dans sa science-fiction. Ken Scholz, qui là aussi connaît bien par à la fois son passé personnel, je rappelle qu'il a été pasteur, et par ailleurs, parce que visiblement ce thème de la croyance, de la foi et du fanatisme le passionne dans ses ouvrages. Régis Godin, qui aussi intègre ces questions dans une société de fantaisie qu'il a imaginée et créée dans ce premier roman, Le sang des sept rois. Et puis, parmi nous aussi, la dernière lame, Estelle Faye, où là, vraiment, la question de la violence religieuse est complètement du millénarisme au cœur de son ouvrage. Et puis, même si ça n'est pas au cœur de l'ouvrage, c'est quand même extrêmement important, et c'est un des ressorts, on ne pourra pas tout dévoiler, d'Oraison, le roman de Samantha Bailly, qui a obtenu en 2011 le prix Imaginal des lycéens. Samantha Bailly, qui, je vous le rappelle, mais je crois que vous le savez tous maintenant, on l'a assez répété, et le coup de cœur 2013 des Imaginales. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue à Lionel Davoust, qui non seulement est écrivain, mais qui est en plus depuis 2002 un fidèle traducteur du festival, tous ceux qui nous permettent justement de passer un bon moment entre nous avec nos invités étrangers. Bien, ces petits préambules étant terminés, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Et rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être lire un extrait de texte avec, justement, avec Estelle Faye. Trois siècles après la fin des mines, le pays du feu depuis longtemps oublié, les prêtres des cendres avaient commencé à arpenter les chemins, passant par les petits hameaux tout d'abord, puis par les bourgades de province. La nouvelle religion parlait aux humbles, aux petites gens, donnait un sens à leur vie et à leur fin prochaine. Le nombre des adeptes croissait sans cesse. Les hommes subissaient l'épreuve de l'onction noire. Certains en mouraient, les autres portaient à jamais sur leur peau la marque de leur allégeance. Désormais, les cendres possédaient un clergé, une armée, l'Église était forte de milliers de fidèles. Alors, Estelle Faye, dans votre roman, paru dans la collection Pandore du Pré-Auclair, vous avez imaginé une société post-apocalyptique dans laquelle, face au désespoir, face à l'eau qui monte et qui menace de submerger la planète, en tout cas cet univers-là, vous imaginez l'apparition d'une nouvelle religion qui, en quelque sorte, prône la fin de l'humanité et qui recrée une armée, une inquisition. D'où vous est venu ce thème, justement, à la fois de la fin du monde et du fanatisme religieux? Estelle Faye, c'est mieux avec un micro.
Mon premier amour, au-delà de la fantaisie, c'est le post-apocalyptique. Donc, tout ce qui est, justement, détruire un monde, mais aussi détruire un monde pour peut-être, après, reconstruire quelque chose sur les cendres. Tout ce qui est société de survie. Et donc, c'est quand, pour Pandore, Xavier Mauméjean m'a parlé d'écrire un roman de fantaisie, j'ai décidé de l'écrire comme un post-apocalyptique. Et dans le post-apo, il y a évidemment le rapport des hommes à la fin du monde et comment ils réagissent dans ces situations. Et finalement, il y a juste à tirer un peu la manière dont les hommes réagissent de nos jours dans des situations de crise. C'est qu'en fait, dans des situations de crise, il y a peu de gens qui s'occupent vraiment de résoudre le problème ou de sauver le monde. Il y a les gens qui essayent de penser les blessures qu'ils peuvent, et puis surtout, il y a les gens qui essayent de donner du sens à ce qu'ils vivent. Et pour donner du sens dans un monde de fin du monde, justement, ils vont trouver un sens à l'apocalypse, se dire qu'elle est justifiée, voire qu'elle est juste, qu'elle est bonne. Et ils vont devenir d'autant plus irrationnels qu'ils essayent de justifier l'injustifiable. Évidemment, là, après, ils essayent de le justifier avec une religion, avec un dieu qui va avec, et ça donne le fanatisme évoqué dans l'extrait.
On va partir vers un autre univers, celui de Samantha Bailly. Oraison, et puisque le titre du roman est Oraison, venons-en au vif du sujet. Manérian, la cité des Oraisons, royaume d'Eldérion, Manérian 912. Oraison, cérémonie consistant à envoyer les morts sur la planète attribuée à leur naissance par un procédé de réincarnation. Elle est considérée comme un art puissant et sacré, et seules les personnes appartenant à la corporation des marchands d'étoiles résidant dans la cité de Manérian, peuvent accéder à ce savoir. La cérémonie se déroule en deux temps. D'abord, un discours d'éloge funèbre, puis un rituel lié à l'astracisme. L'astracisme, la religion maîtresse du royaume d'Eldérion, est incarnée par une autorité suprême, l'Astrakhan. Ce dernier cumule les fonctions de dirigeant politique et religieux. Extrait de l'Encyclopédie de l'histoire d'Olien par Aseon Madias, membre de la corporation Volplume de 613 à 647. Alors, dans ces premières pages du roman, on est au chapitre 2, l'oraison, c'est le titre de votre livre, et c'est un élément essentiel. On ne peut pas évidemment révéler tout ce qu'il va découvrir au fur et à mesure, mais c'est un élément essentiel de la vérité et du mensonge, et aussi du fanatisme religieux. Pourquoi ce titre, oraison, et pourquoi tout de suite vous êtes intéressé dans ce premier roman de fantasy aux questions religieuses, aux questions de la foi, aux questions aussi de la manipulation de la foi et à la question du fanatisme religieux, Samantha Bailly?
En fait, ce qui m'a toujours à la fois étonnée et fascinée dans la religion, c'est que ne serait-ce que le mot religion, on a relié. Et ne serait-ce qu'en entendant des cours d'histoire, en voyant l'actualité, finalement, je ne vois rien d'autre qui ne divise plus les hommes que ce qui est censé les relier, en fait. Et c'est ça qui m'avait déjà donné envie de construire un monde qui tournerait autour de cette théocratie, de cette prépondérance de la religion. Et l'oraison, donc c'est à la fois le rituel, en effet, d'éloge funèbre, donc c'est une espèce d'accompagnement du deuil, mais c'est aussi un rituel magique, en fait, qui consiste à prélever les âmes des morts. Et c'est ce sur quoi repose cette société qui, finalement, fait le commerce de ces âmes-là. Donc forcément, quand on a en plus une intrication, on va dire, justement de cette quête de sens qui a été évoquée tout à l'heure, et en plus du commercial, évidemment, les motivations des hommes vont tout de suite se métamorphoser et vont donner lieu à certaines luttes de pouvoir.
Pierre Bordage, pas cité d'extrait, mais on va plutôt réfléchir à l'ensemble de votre œuvre, et je crois que ce n'est pas la première fois qu'on le dit à ces imaginales, puisque vous en êtes un habitué. Votre œuvre de science-fiction s'intéresse depuis, je crois, ses débuts aux questions de la religion, de la foi, des institutions religieuses, de la manipulation et du fanatisme religieux. Vous êtes un homme passionné par les mythes, vous êtes donc un homme passionné par les livres de foi, des mythes qui véhiculent, mais vous êtes aussi extrêmement méfiant vis-à-vis de l'utilisation que les hommes peuvent faire de cette aspiration en quelque sorte mystique. Pourquoi ça prend une telle proportion dans votre œuvre, Pierre Bordage ?
Bien. Je trouve, comme Samantha le disait justement, qu'il y a une très très grande différence entre les paroles sacrées et les interprétations qu'on en fait. J'ai fait le petit séminaire, donc j'étais intéressé tout petit par les questions religieuses, ou disons plus exactement par les questions spirituelles, parce que pour moi il y a une grande différence entre la spiritualité et la religion. Spiritualité veut dire liberté, religion veut dire emprisonnement. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé au bout de 4 ans d'études, où les prêtres se sont ingéniés à briser tout élan spirituel pour faire de moi un petit soldat de la foi, ce que j'ai refusé, donc je suis parti. Et donc après, j'ai retrouvé l'essence de la spiritualité lors d'un voyage en Inde, pour une expérience personnelle. Parce que la spiritualité, c'est évidemment personnel, tout à fait individuel. Et dès qu'on rentre dans le dogmatisme, on crée évidemment le fanatisme et tout ce qui va avec, et on crée un emprisonnement. Et j'ai l'impression que l'interprétation, il y a deux personnes dans chacun, j'ai l'impression qu'il y a l'expérimentateur et il y a le juge. Et comme quand l'expérimentateur ne peut pas expérimenter, on n'expérimente pas, il juge. Et donc souvent le prophète est celui qui expérimente, celui qui ouvre une nouvelle voie, et les disciples qui nous ont pas ouvert cette nouvelle voie, qui n'ont pas l'expérience, sont obligés de la compenser par des mots. Et donc deviennent de ce fait enferment l'expérience dans la pensée, et donc créent des prisons de pensée dans lesquelles ils essaient d'enfermer tous les autres. Et donc c'est ce mécanisme-là qui m'intéresse dans chacun de mes livres, parce que j'ai même fait une trilogie qui est consacrée aux religions, hein, c'est l'Évangile du Serpent, Chemin de Damas et l'Ange de l'Abîme, c'est directement centré sur les religions. Et c'est cette différence entre spiritualité libre qui doit emmener vers la liberté et religion qui enferme, qui m'a toujours passionné. Et c'est ça que j'essaie de distinguer entre les deux. Et je pense que l'homme enfin de mon point de vue personnel, à une aspiration spirituelle, mais que malheureusement cette aspiration spirituelle est récupérée toujours par les systèmes de pensée qui sont à l'œuvre depuis la nuit des temps et qu'on trouve dans tous les systèmes d'ailleurs, aussi bien politiques que religieux, etc.
Ken Scholz, je l'ai dit tout à l'heure, vous le dites dans votre biographie, donc je ne révèle pas de secret, vous avez été un temps pasteur. J'imagine que c'est que vous avez été ou vous êtes habité par la foi, même si ensuite vous avez cessé de l'être. Je pense que ces questions vous préoccupent toujours et qu'on le trouve dans vos livres. Un tout petit extrait, donc on est dans Antiphon, c'est le volume 2 de votre série des psaumes d'Isaac. Là aussi, vous avez remarqué, les psaumes d'Isaac, c'est évidemment une référence biblique que ceux qui ont eu, comme nous, je pense un certain nombre d'entre nous, d'éducation judéo-chrétienne, connaissent ou dont ils se rappellent au moins un peu. Des bruits de pas montèrent derrière lui. Vlad les reconnut aussitôt. « J'ai entendu la cloche, Barik, je ne serai pas long. » Le grand prêtre de guerre s'assit près de lui. « Sa mort ?» Vlad gloussa. « Je suppose que oui, mais pas à mon hameçon. » Barik rit à son tour, puis reprit la parole d'une voix grave. « Je suis content de vous retrouver. Je voulais vous parler seul à seul. » Vlad se tourna pour le regarder. Barik était son gendre. Son épouse Rae était morte dans de terribles souffrances après avoir absorbé des magiques de sang. Vlad avait toujours fait confiance au prêtre de guerre, mais depuis la disparition de Rae, il l'avait vu sous un jour nouveau. Les Franciens auraient sans doute affirmé que le traumatisme commun avait rapproché les deux hommes en créant des liens d'intimité. Mais la plupart des adultes de la maison Litam étaient morts et enterrés sur cette île, et Vlad avait appris à se reposer sur le sens tactique et la sagesse de Barik. Ce soir-là, le prêtre de guerre avait l'air inquiet et épuisé. Prêtre, guerre, l'ex-pasteur Ken Scholl, qu'est-ce qu'il pense de ce rapprochement entre les deux? Est-ce que ce n'est pas un peu provocateur?
I'll share the mic with you. In my opinion, I think oftentimes, and I think I heard you say something to the effect of how institutions will co-opt the spiritual impetus of that humanity has as a part of our evolution, I think. And they'll be co-opted by any number of institutions. For instance, when my nephew was killed in Afghanistan, at his funeral, they spoke of how he was there to serve his God and his country. And yet, I know that the person who built the bomb who killed him was serving his God and his country. And it seems that there are many people who will grab hold of these things, these ideas, and then use them as weapons or tools to compel their own designs. So in my study of history, war and religion are often hand in hand. But I didn't want to make anybody provoked.
Je ne voulais pas forcément provoquer qui que ce soit, mais à mon sens, ce sont des choses qu'on retrouve souvent ensemble. Pierre Bordage, vous mentionniez à l'instant qu'il y a souvent des institutions qui enferment l'élan spirituel de l'humanité, et ça fait partie de l'évolution de notre histoire. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'institutions qui se livrent à ce processus. Quand mon neveu a été tué en Afghanistan à ses funérailles, un prêtre a parlé, il a dit qu'il était mort en servant son Dieu et son pays. Mais je pense que la personne qui a construit la bombe qui l'a tué, lui aussi pensait qu'il servait son Dieu et son pays. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions qui cherchent à s'emparer de ces idéaux et de les façonner en armes ou du moins en outils pour servir leurs propres fins. Et je pense que quand on étudie l'histoire, on peut constater que guerre et religion vont souvent main dans la main.
Je pense que après ces fortes paroles, on est évidemment touché. On se rend compte qu'on aime les livres, mais que derrière les livres, il y a aussi des histoires humaines. Et que c'est parce qu'on sent ces histoires humaines que, quelque part, les écrivains nous renvoient à ce qui nous touche au cœur, au plus profond. On va maintenant aborder notre cinquième auteur, ce panel, Régis Godin, donc avec un premier roman extrêmement fort et une grande ambition, puisque l'objectif est de faire une saga en 7 volumes. Et en tout cas, je peux dire que quand on a lu le premier, on a vraiment envie de s'embarquer pour un long chemin avec lui. Voilà, peut-être compliment que je tenais à faire. Petit extrait là aussi, histoire de religion. Le sang des sept rois. Le lendemain du meurtre, Ofnar avait officiellement été choisi par ses pairs pour succéder à Arcos. Ces procédures ne duraient jamais très longtemps. Elles étaient en général préparées de longue date pour que la transition soit prompte en cas de nécessité. Il allait maintenant falloir penser à une nouvelle liste de succession au cas où. Cette pensée laissait un goût amer dans la bouche d'Ofnar. Il avait rassemblé les théocrates les plus importants du royaume et avait diligenté une enquête pour identifier le meurtrier. Rien pour l'instant n'était en mesure d'autoriser une hypothèse crédible quant au motif du crime. Le poison était de nature inconnue, foudroyant. Arcos et Ofnar se connaissaient bien. Ils s'étaient parfois opposés sur des questions de liturgie ou de gestion des deniers. Mais ils s'estimaient. Ofnar était à l'image d'Arcos un fin politique et un homme de pouvoir. Ofnar avait la morphologie de ces hommes élancés dont les activités ne les ont menés ni au champ ni au combat, comme si un corps pouvait se passer de muscles et s'élever d'os et de tendons. Attentif à tout, c'était un bourreau de travail, un stratège, un homme désagréable, intègre et obstiné. Dès son accession au siège, il avait ordonné une purge dans les cadres de la théocratie. De nouveaux théocrates supérieurs étaient partis prendre leurs fonctions dans les lieux stratégiques, alors que ceux qu'ils devaient remplacer étaient appelés à des postes honorifiques au sein du palais du suprême. Alors qu'Ofnar marchait en direction de son bureau, il manipulait tout au fond de sa poche une question sans réponse qui prenait la forme d'un bijou singulier, une petite clé d'or à l'anneau ornée d'un rubis rouge sang, celle qu'il avait trouvée sur la table de la crypte. Il n'était pas bien difficile de deviner que quelque chose condamné par une petite serrure était caché dans la crypte. Là aussi, on devine théocratie, on est vraiment dans le mélange qu'on voit toujours aujourd'hui dans la réalité de la religion et du pouvoir. Est-ce que c'est vraiment un thème qui, à votre avis, Régis Godin, est un thème fréquent de la fantaisie? Pourquoi vous, ça vous a intéressé au point d'en faire un élément important de la narration du roman Les Sept Rois, Le Sang des Sept Rois?
Oui, alors ça m'intéressait beaucoup, effectivement. D'ailleurs, rien que le terme théocratie donc, va contracter donc, la théologie et puis le fait de diriger, hein, d'une certaine manière. Et cette idée, c'est que finalement, déjà, c'est vrai, dans la fantaisie, on rencontre beaucoup la religion parce qu'on se place en général dans un cadre médiéval et que la religion est une force en présence extrêmement importante dans le cadre médiéval. Ce qui fait que d'une manière assez récurrente, on va rencontrer ces formes-là. Là où peut-être j'essaie de pousser la réflexion un petit peu, c'est que j'essaie de considérer que la religion, dans ce cadre-là, est une fabrique humaine, dans laquelle finalement, on va avoir un petit peu comme ce qui était de règle au Moyen-Âge, à savoir qu'on va fabriquer une histoire, hein, qui permette de figer les gens dans le rôle social, hein, qui leur a été déterminé à la naissance. À savoir l'aîné qui va hériter et hériter des armes, les cadets de famille qui vont emprunter donc la voie de la religion, tandis que les autres donc n'hériteront que de la joie de partir au combat. Et à partir de ce moment-là, dans le tiers état également, la religion, quand on regarde un petit peu l'histoire de la religion chrétienne occidentale, on nous dit quand même sans cesse acceptez votre condition. Hein, et si vous acceptez votre condition et ne remettez pas en cause finalement la place que Dieu vous a donnée, vous accéderez au paradis. Hein, les derniers seront les premiers. Et à partir de ce moment-là, moi, la réflexion qui m'est venue, c'est que finalement, la religion était un outil politique extraordinaire, hein, pour fixer la société en l'état. Et voilà, c'est donc l'idée un petit peu de la théocratie. Alors, à côté de ça, il y a naturellement une autre réflexion qui m'est venue au cours de route, c'est que finalement, dans la fantaisie, il y a un consensus individuel qui va lier finalement le livre, l'auteur et le lecteur, sur le fait qu'on va faire croire, hein, aux gens le temps d'un livre à quelque chose qui va être complètement irrationnel. Il y a donc des règles, une règle du jeu, on pourrait dire un gameplay, dans lequel on va donner un cadre, des pouvoirs magiques, je ne sais pas quoi, ça dépend naturellement des livres. Et au sein donc de cette des règles du jeu, on va décider ensemble de croire dans un consensus librement accepté. Alors que dans la religion, d'une manière générale, on a perdu en fait le lien avec l'histoire d'origine. Personne ne peut dire c'est une histoire, ça n'en est pas une. Quand on regarde par exemple la religion chrétienne, l'histoire de Christ, c'est un roman de fantaisie. avec la prophétie. On a toutes les composantes d'un roman de fantasy. La prophétie, la fuite, le massacre, un enfant surdoué qui va développer des pouvoirs, marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, ce qui est très pratique, convaincre les poissons d'entrer dans un filet. Enfin, voilà, et puis ensuite, il va y avoir le sacrifice. La résurrection, hein, le fait de revenir et de vaincre d'une manière non violente, ça aussi, ce sont des thèmes qui sont tout à fait récurrents. Finalement, la réflexion qui m'est venue en cours de route, c'est en réalité, et si par exemple, en prenant un roman de fantasy, 2000 ans plus tard, des gens qui décident de nous dire que c'est la vérité et qu'il faut l'admettre. Et c'est une terrible violence, parce que quand on était enfant, moi je suis issu d'un milieu campagnard et j'ai fait du catéchisme comme tout le monde, et alors qu'on nous demande, étant enfant, de construire finalement un esprit critique. Un esprit critique, on nous demande de construire le monde en fonction de notre jugement. On nous demande parallèlement d'admettre quelque chose qui est complètement irrationnel comme étant la vérité. Et finalement, c'est quelque chose qui s'avère être d'une assez grande violence, parce que ça rentre en contradiction avec les modèles d'éducation qu'on cherche à nous donner. Et donc, à partir de toutes ces réflexions, j'ai conçu l'idée que finalement, la religion était une fabrication humaine qui visait à stabiliser les pouvoirs politiques. Et c'est un petit peu l'axe un petit peu que j'ai choisi pour mon livre. Voilà.
Chapitre 6, le relief de la mort, royaume d'Eldérion, Manérian, 912. Question 11. Comment affronter la mort ? La disparition d'un être cher a pour nous deux facettes. C'est un événement social et relationnel qui bouleverse la vie de chacun, mais aussi un état de fait qui entraîne des réactions émotionnelles fortes. Cela fait partie du travail de l'oraisonnier de comprendre le fonctionnement de la douleur psychologique de l'être humain. Son rôle est de confronter le client d'oraison à la réalité de la mort. En tant qu'oraisonnier, nous divisons le deuil en plusieurs phases afin de mieux comprendre les étapes qui mènent à l'acceptation. Toutefois, n'oublions pas qu'il y a autant de réactions face à la mort qu'il y a d'individus. Extrait de « Secret d'oraison » par Gide Manérian, dirigeant de la Corporation des marchands d'étoiles depuis 882. Donc on voit bien qu'avec ce processus de référence en fait à un dictionnaire, à des ouvrages publiés, ça donne en quelque sorte, si je ne me trompe pas, un effet de réel pour que cette religion soit vraiment, au fur et à mesure de la lecture, perçue comme une réalité profonde de cette société. Samantha ?
C'est ça, c'est que en fait, on a accès dans Oraison à plusieurs documents à chaque début de chapitre qui sont écrits par des personnes qui ont des points de vue très différents. Donc celui-ci, c'est un extrait du chef de la corporation des marchands d'étoiles, donc le chef des oraisonniers, donc il y a une orientation qui est assez forte, alors qu'on va avoir d'autres documents écrits par des courants politiques qui s'y opposent, mais celle-ci montre bien tout le système de l'oraison, ne serait-ce que le terme de client renvoie bien à tout l'aspect commercial qui est exploité dans le roman, et en même temps un accompagnement psychologique qui est censé être le rôle des oraisonniers. On parlait de quête de sens, de rechercher du sens tout à l'heure, et c'est vraiment ça le pivot central du roman, c'est finalement que vaut cette quête de sens par rapport à un au-delà qu'on ne connaît pas, et pourquoi finalement ce qui n'est pas en tout cas dans notre champ de vision, dans notre accès, a des conséquences qui sont aussi graves sur des individus, et donc là en l'occurrence dans cette société, l'oraison est... donne lieu à des meurtres, va justifier des guerres puisque finalement prélever des âmes des morts va pouvoir apporter de l'argent à l'État. Donc il y a vraiment cette corrélation entre les deux.
Estelle Faye, un petit extrait. Au coucher du soleil, on brûla la sorcière de Kael Drac ainsi que le messager aux mains palmées. Le petit homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Quand les frères allumèrent le bûcher, il roula des yeux affolés, poussa des cris désarticulés, se contorsionna dans ses liens jusqu'à se faire mal. Les prêtres avaient habillé la sorcière d'une chasuble brune et lui avaient rasé les cheveux. Elle cracha sur les novices qui la ligotaient au poteau, tenta de les mordre. Tandis que les flammes s'élevaient, elle invoqua d'une voix haineuse les anciens dieux de son panthéon barbare, Eris, Sélène, Vultan, jusqu'à ce que la fumée l'intoxique. Prise à la gorge, elle toussa, cracha encore à s'en déchirer les poumons. Sa nuque se raidit dans un effort désespéré pour inspirer de l'air pur. Puis sa tête retomba contre son cou. La fumée l'enveloppa. Peu de monde assista à l'exécution. Dans le donjon à l'étage, les princeps de l'église, archevêques et cardinaux, tenaient une réunion de guerre. Dans ses appartements, Marie étudiait un traité militaire. Dans la salle de garde, entouré de ses hommes, Laurent de Vorse complotait. Les moines alimentèrent le bûcher jusqu'à ce que les corps soient entièrement calcinés. Pendant plusieurs heures, la lueur rubescente suffit à éclairer la chambre de Marie. Ensuite, la jeune femme alluma une chandelle. Dehors, les frères allaient recueillir les cendres pour les ajouter à l'onction noire. Voilà en quelques paragraphes. C'est un monde où en effet règnent les bûchers. C'est un monde où l'Église n'essaie pas de convaincre mais d'imposer. Et c'est un monde où l'héroïne, le personnage principal, l'arme de guerre de cette Église, même si on verra par la suite que les choses sont plus complexes, mais on ne va pas révéler, il faut laisser le plaisir de découvrir la dernière lame. On est dans ce monde théocratique et si je ne me trompe pas, Estelle Faye, aucun de vos personnages, à part un, au début, ne sont vraiment sympathiques. C'est un choix ?
Alors, c'est un choix, disons, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, que j'ai fait un peu sans le vouloir au début. Un film qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, c'était The Devil Rejects, que je pense personne n'a vu ou presque dans cette salle. Et c'est un film où on suit des personnages qui sont absolument antipathiques, qui sont les pires raclures au monde, et qui sont frères et sœurs. Et au bout d'un moment, le réalisateur nous fait tellement aller avec ces personnages, coller avec ces personnages, qu'on se met à les comprendre et qu'on se met à les voir non plus comme des raclures, mais comme des frères et sœurs. Et quand ça va mal pour eux, bah finalement, on est touché. Et pour moi, c'est une des grandes forces de la culture, c'est une des grandes forces des histoires, c'est de nous permettre d'être touchés, d'être en empathie avec des gens dont on se dit « mais c'est pas possible, c'est des infâmes raclures, comment je peux faire pour sympathiser avec eux ?» Et c'est vraiment une des grandes forces de l'humanité, d'arriver à retrouver l'humanité, même chez les pires inquisiteurs, même chez les pires raclures, quand on nous raconte une histoire à propos d'eux, quand on nous les met en scène et quand on nous les met en mouvement, et qu'on se met dans la tête de ces personnages. Et ça ne veut pas dire qu'on les approuve. Loin de là, en plus, voilà, enfin, c'est... Disons, je suis par ailleurs issue d'une lignée d'instituteurs et de professeurs laïcs qui ont justement eu à certaines époques à combattre des curés de campagne qui cherchaient à imposer un peu donc une vision très noir et blanc du monde et où évidemment l'instituteur était du côté noir. Donc voilà, je ne suis pas du tout en admiration devant ces personnages, devant ces moines qui font brûler la sorcière et je pense qu'à aucun moment on ne peut le croire dans le récit. Par contre, justement, j'essaye de me dire comment Marie, par exemple, comment mon héroïne, elle a pu en arriver là ? Comment elle a pu arriver à intégrer tellement ce système que c'est devenu sa colonne vertébrale ? Qu'elle trouve sa force dans ce système-là, en fait. Et c'est ça qui m'interroge en tant qu'auteur, qui m'interroge en tant que personne humaine. Je n'ai pas forcément la réponse, mais je veux au moins faire partager ces questions-là à mes lecteurs. Et arriver, justement, à leur dire, regardez, ce personnage n'est pas parfait. Mais au fond, aucun être humain ne l'est vraiment, ou très peu en tout cas. Et... arriver à comprendre un être imparfait, voire à compatir avec lui ou à être en empathie avec lui, finalement, c'est aussi ça qui nous rend meilleurs. Donc, en fait, c'est un livre super positif.
Elle l'a bien vendu, quand même. Mais c'est vrai que c'est un bon livre. Petronius, retour à Ken Scholz. Petronius avança jusqu'à la limite de la cité en tenant son cheval par la bride. Il s'était dit qu'il allait entrer, qu'il ne ferait que jeter un rapide coup d'œil. Une force inconnue le poussait, la colère et le désespoir s'agitaient sans relâche, l'une pourchassant l'autre autour de son âme vide. Il avait tenu à marcher afin de sentir le crissement des cendres et le craquement des débris charbonneux sous ses chaussures. Il voulait être certain qu'il ne rêvait pas. Il avançait de quelques pas et s'arrêtait pour inspirer une bouffée d'air saturée de soufre, d'ozone et de fumée. Il laissait errer son regard sur le paysage lunaire à la recherche de quelque chose, mais il ignorait quoi. Petronius connaissait bien les cinq chemins de la douleur. Il avait commencé son ascension vers le poste de pape à la division des pratiques andofranciennes, analysant et manipulant les routes du savoir et du comportement. Il oscillait en règle générale entre l'épée et la bourse vide, mais retournait parfois à l'œil aveugle. Petronius avait pourtant vu la mort et la destruction à l'œuvre. Quelques jours avant de comploter son propre empoisonnement, il avait ordonné qu'on rase le village des Marais d'où venaient des pillards qui avaient attaqué une ville libre en amont du fleuve. Les chasseurs avaient tué la moitié des adultes et un quart des enfants. Ils s'en étaient ensuite pris à une petite caravane sous escorte qui revenait du désert bouillonnant avec une cargaison de reliques et de parchemins. Pour des raisons de sécurité ou de conservation, On avait décidé que ces objets devaient être transportés sur le champ jusqu'à Windweir. Après avoir enterré les morts, les hommes des marais avaient regagné leur village de l'autre côté du fleuve. La décision n'avait pas été très difficile à prendre. Petronius avait dépêché les éclaireurs de la garde grise, magifiés et armés de flèches, qui produisaient des flammes d'une chaleur insoutenable après impact. Des flammes que même l'eau ne parvenait pas à éteindre, encore un savoir que l'ordre gardait jalousement afin de conserver sa suprématie et de ralentir l'allure à laquelle l'humanité courait à sa perte. Petronius avait envoyé l'unité sous le commandement d'un capitaine qui était déjà un peu trop âgé pour ce genre de mission. Grimly, c'était le seul membre de la garde grise capable de remettre le roi des marées à sa place sans en perdre le sommeil pour autant. Les éclaireurs avaient rasé le village comme Petronius l'avait ordonné. Ils avaient tué tous les habitants, hommes, femmes et enfants. Par la suite, Petronius avait exigé qu'on le conduise sur les lieux du carnage. Cette expédition avait duré un jour et demi. Grimly l'avait accompagné. Il n'en avait pourtant aucune envie, car il estimait que le pape n'aurait pas dû entreprendre un tel voyage. Petronius avait fait ce qu'il avait fait ce jour-là. Le village était modeste, mais plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il avait approché à pied. C'était un serviteur qui tenait la bride de son cheval et les cendres avaient crissé sous ses chaussures. Et puis il avait distingué des formes à travers le brouillard de fumée qui montait encore des ruines. Il avait vu des poutres carbonisées, des pierres fumantes tomber des murs, des piles noirâtres et crépitantes de quoi. Par terre, il avait aperçu des formes de toutes tailles. Les plus grosses étaient les carcasses de bœufs, les plus petites étaient les corps d'enfants ou peut-être de chiens. Petronius avait suffoqué et s'était couvert la bouche de la main. Il avait pourtant donné l'ordre de raser ce village en toute connaissance de cause, 3 jours plus tôt. Cette constatation l'avait ébranlé. Dieu, qu'ai-je fait ? Avait-il demandé sans s'adresser à quelqu'un en particulier. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire pour que la lumière continue de briller, votre Excellence, » avait déclaré le capitaine. « Vous avez vu maintenant. Vous savez désormais à quoi ressemble la réalité. » On n'ira pas plus loin, on ne va pas révéler toute une série de choses dans le roman, mais ce choc va amener ce personnage, qui n'est pas un fanatique religieux, mais un homme de foi et un homme de pouvoir brutal, à s'interroger sur sa mission, sur ses méthodes et sur sa responsabilité. Est-ce que vous croyez, Ken Scholz, que les fanatiques peuvent un jour se convertir au bien et à la démocratie ?
Je m'appelle Petronius. Because as a young man, I was an extremist fundamentalist minister. I believed that the world was made in 6 days. I believed that evolution was a trick. I believed that anything pleasurable should be avoided because it could cause society to crumble. I believed a lot of things that were very irrational. And in creating Petronius, I used mostly me, the backward dream that I focused so much of my life on, the center of my life as a minister. And then that very slow glacial process of saying, no. They're all personal to me, but he's very personal to me. He's based on a friend in part who was a highly placed Air Force officer who gave it up to go be a purchasing clerk. And based on me giving up my position as a minister to find a new way. I'm fortunate that I didn't have to fake my own death to leave. But I think that Petronius is me. I'm now a person of reason. I'm a person who thinks that religion can be very, very dangerous. I also think that spirituality can be very, very good. And when I see the universe, I'm moved by it in a way that is deeper and more miraculous to me than anything I ever saw when I was an extremist.
Je suis Petronius. Quand j'étais jeune homme, j'étais un extrémiste. J'étais un prêcheur fondamentaliste et traditionnel. Je croyais tout un tas de choses. Je croyais que le monde avait été créé en 6 jours. Je pensais que l'évolution était un mensonge. Je pensais que tout ce qui pouvait avoir de très plus ou de plus ou moins trait au plaisir, il fallait absolument l'éviter parce que si on s'y laissait aller, la société s'effondrerait. Je croyais tout un tas de choses parfaitement irrationnelles. Et pour créer Petronus, je me suis grandement basé sur moi et sur le rêve totalement arriéré que je vivais et qui était le centre de ma vie. Et j'ai fait un long chemin, un long processus qui m'a mené à dire non à toutes ces choses. Il est basé donc en partie sur moi et également sur un ami qui est un officier de l'Air Force qui a lui aussi laissé tomber tout ça pour travailler aux achats dans une entreprise. Et bon, j'ai eu la chance de ne pas avoir à falsifier ma propre mort pour partir. Mais voilà, Petronus est basé en grande partie sur moi et sur cet ami-là et sur le chemin que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis une personne, un homme de raison. Je pense que la religion est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je pense également que la spiritualité est quelque chose de très bon et de très beau. Et quand je regarde l'univers aujourd'hui, je suis ému d'une façon plus profonde. Je considère qu'il est un miracle plus vaste que tout ce que j'ai pu croire quand j'étais autrefois pasteur.
C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé ces trois premiers romans, parce que je ne suis pas surprise de la réponse de Ken Scholz. Parce qu'en effet, être capable de construire un personnage qui fait son chemin de Damas, mais dans un autre sens qu'est Petronus, je me suis demandé, voyant sa fiche biographique, si en effet il n'y avait pas des éléments de chemin personnel. Et je trouve que intituler une série Les Psaumes d'Isaac, surtout dans un pays quand même de vieille tradition laïque comme le nôtre, c'est quelque chose qui aurait pu nous révulser, nous faire hésiter, parce que c'est vrai que parfois on a ce soupçon de la menace religieuse, en particulier en France, et pourtant dès qu'on rentre dans ce livre, on voit qu'à côté des fanatiques, il y a des hommes de spiritualité et de foi qui font ce chemin-là, et j'ai l'impression que ça rejoint ce que nous avait dit Pierre Bordage tout à l'heure, parce que dans sa dernière série de Space Opera, La Fraternité du Panka, on a justement des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes qui deviennent en tout cas des hommes et des femmes de foi, et dont on se demande si à un moment donné, ils ne sont pas menacés par une croyance aveugle, par un fanatisme. Et là aussi, j'ai l'impression que ce sont des sujets que Pierre Bordage pourrait complètement reprendre. Est-ce que je me trompe, Pierre ?
Non, c'est tout à fait juste. Je repense ce que je disais tout à l'heure, cette différence entre spiritualité et religion qui pour moi est essentielle. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup interrogé, et ce que tu as dit, Régis, tout à l'heure, c'était assez fondamental sur le fait que la religion fige. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est joué à un moment donné dans la nature, dans l'histoire humaine, qui est l'arrivée de la sédentarité. Et donc, ce besoin de figer les choses. Il n'existe par exemple pas de dogmatisme dans les pratiques chamaniques, puisque c'est l'expérience directe. Et que si on n'a pas l'expérience directe, on ne fait pas l'expérience. On peut en bénéficier éventuellement pour des histoires de guérison et tout ça, mais on ne impose à personne la croyance. Et donc ça, ça me paraît intéressant. Et puis quand arrivent les sédentaires, et le culte des déesses mères est remplacé par le culte d'un dieu unique, le culte patriarcal, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est cette tentative de figer le temps pour de simples raisons de refus des cycles. En fait, en quelque sorte, comme si... l'homme ayant peur de sa propre mort, refusant le cycle, est obligé de passer par tout un appareillage pour accepter cela, qui est un appareillage de transmission en fait, en quelque sorte. Donc toutes ces sociétés qui se montent pour transmettre une parole et donc dont on perd l'essence très très rapidement, parce que la parole du prophète, contrairement au chaman qui lui expérimente en permanence les choses, c'est-à-dire qu'il va directement dans l'expérience, le prophète d'une religion instituée est oublié depuis très longtemps, et c'est absolument hallucinant de voir ce qu'ont fait des paroles du Christ quand on relit les évangiles, parce que je me suis repenché sur les évangiles en faisant l'évangile du serpent, parce que je voulais créer un évangile moderne qui dit qu'on ne doit pas juger, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, que ce que vous faites au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le faites, etc. Il y a plein de commandements, enfin, ou de recommandations plus exactement du Christ, qui ne sont absolument pas suivis par sa propre religion. Et donc, effectivement, du coup, la religion devient simplement un instrument de fixation des choses, et donc, effectivement, de prolonger le pouvoir en place, et n'a qu'une seule, d'ailleurs, quand on voit l'élection du pape récemment, n'a qu'une seule obsession, finalement, c'est hériter d'elle-même en permanence, donc de maintenir ses acquis, qui reposent essentiellement sur une interprétation complètement erronée.
je citais la fraternité du Panka, Pierre, si je peux peut-être préciser. En quoi cette fraternité du Panka, cette série de space opéra, justement, pose-t-elle elle aussi les questions de la foi et du sacrifice?
Alors, il est vrai aussi que dans la plupart de mes livres, il y a une grande notion de sacrifice, le héros sacrifié, qui est, je pense, un classique finalement mythologique du livre initiatique. Dans le Panka, ce qui m'intéressait, c'était justement que ces personnages soient à la frontière en permanence entre la croyance ou l'allégeance à leur ordre, hein, qui est une fraternité secrète, et leurs propres doutes. Et qu'ils devaient faire la démarche personnelle pour aller au-delà des doutes et comprendre leur rôle dans cette fraternité. C'est-à-dire que c'était une acceptation du rôle et non plus une imposition du rôle. Et donc le chemin de chacun des 5 maillons de la chaîne, puisqu'ils doivent reconstituer une chaîne de 5 éléments, c'est d'aller vers l'acceptation de son propre rôle. Et c'est-à-dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'acceptation, c'est-à-dire accepter de disparaître finalement dans une chaîne, hein, qui est le sacrifice ultime, mais qu'aussi d'une très grande beauté quand elle est consentie et qu'on fait le chemin vers ça, quoi. Et je pense que c'est aussi le chemin de chaque être humain finalement, parce qu'on va tous vers un point qui s'appelle la mort, et donc on a tout un grand travail d'acceptation à faire par rapport à la mort. Et je pense que quand ce travail d'acceptation est fait, alors on a beaucoup moins de prise par rapport aux religions qui nous promettent des paradis factices, à mon avis, puisque ce décalage en temps, c'est cet héritage qui est toujours en cause, c'est-à-dire une structure figée qui fait hériter quelque chose, alors que non, c'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant le travail d'acceptation, comme le chaman par rapport à son expérience. Je pense qu'il y a une grande différence entre les deux, quoi.
Un peu de musique, un peu de fanfare, celle des écoles d'étudiants d'Épinal, qui nous rappelle que finalement, à côté des fanatiques religieux, il y a aussi le bonheur de la vie, du partage et de l'échange. Petit extrait, ça sera le dernier de ce café littéraire, de Samantha Bailly, Oraison. La salle à manger des Manérians avait des airs de fête. Gide, en bout de table, dominait l'assistance. Sa femme, à sa droite, montrait un visage triste, car cette célébration impliquait également le départ de sa fille. Autour de Nouni, une foule de dignitaires, en majorité des collègues d'Oraison, affichaient des expressions hautaines dans leur tenue de cérémonie. Soliane avait passé la journée à décorer le lieu pour les festivités. Des guirlandes ornaient les murs et pour créer une atmosphère chaleureuse, un immense feu se consumait dans la vaste cheminée. Le chef de la corporation des marchands d'étoiles fit tinter la clochette posée devant son assiette afin de calmer le brouhaha des conversations. « Votre attention, s'il vous plaît !» Sa voix tonitruante, plus que le tintement, engendra un silence parfait. « Ma fille, Nouni, a obtenu son étoile de base il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle a encore accompli une excellente oraison qui a grandement soulagé la peine de ses clients. C'est en son honneur, mesdames et messieurs, et afin de l'encourager dans le monde auquel elle vient d'accéder, que nous allons boire et manger ce soir. » Cette déclaration fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Les compliments fusaient de toutes parts, et Nouni avait du mal à faire s'estomper le rouge qui empourprait ses joues. On s'émerveillait de son jeune âge et de sa beauté, mais aussi de sa charmante personnalité. On la questionnait sur ses projets, les villes où elle souhaitait exercer, les préparatifs de son voyage, mais Nouni restait très vague. Elle n'avait pas encore décidé de son itinéraire, encore trop attachée à la cité de Manérian, qu'elle devrait pourtant quitter sous peu. « Et dites-moi, mademoiselle, nous parlons de votre future brillante carrière, mais vous devez également avoir une situation enviable dans un domaine, disons, plus privé. » La femme qui avait posé cette question était une rosinière de certain âge et un sourire malicieux flottait sur ses lèvres. Nouni lui jeta un regard interrogateur. « Vous avez dû trouver un fiancé, n'est-ce pas ?» Quelques oreilles se tendirent et certains convives se tournèrent en direction de Nouni. La jeune fille se racla la gorge et chercha à capter le regard de son père, mais celui-ci était absorbé par une discussion houleuse au sujet de la politique de l'astrakhan soleil. Elle répondit alors avec un calme fin « Ce n'est pas à l'ordre du jour, madame. C'est une préoccupation à prendre en compte tôt ou tard, mademoiselle Manérian. Il se trouve que mon fils, à votre âge, c'est un oraisonnier débutant, mais cela ne m'intéresse pas, » l'interrompit Nouni, avec une rudesse qu'il était rare d'entendre dans sa voix. La femme se rejeta dans son siège, vexée. Elle échangea quelques commentaires venimeux avec ses voisins de table. Nouni dut lutter une bonne minute pour masquer à quel point était douloureux ce que cette question avait réveillé en elle. En dépit de cet incident, le repas se déroula dans une ambiance détendue et bon enfant. Les oraisonniers présents relatèrent leurs expériences de jeunesse, les cérémonies, leur propre pèlerinage. Nouni les écoutait, fasciné, en espérant vivre des aventures aussi palpitantes. Puis la conversation roula sur l'aspect commercial que la jeune Manérian ne pouvait concevoir. On parla notamment de la résuadine, dont la demande ne cessait d'augmenter, l'occasion pour elle de poser une question cruciale à laquelle on lui avait refusé la réponse jusqu'alors. À présent que j'ai obtenu mon étoile de base, puisse-je avoir à quoi sert exactement la risuadine ? Il y eut une certaine gêne dans l'assistance. On n'en dira pas plus parce qu'on verra plus tard que cette affaire est assez sinistre. Mais bon, là encore une fois, même si ce n'est pas le centre du livre, parce que je rappelle que Oraison, c'est l'histoire d'un meurtre, c'est l'histoire d'un drame, c'est l'histoire de deux sœurs qui vont réagir face à ce crime de façon complètement différente, l'une dans la révolte et l'autre dans l'acceptation, du moins la volonté d'accepter ou du moins de faire son deuil. Et le fanatisme et les religieux qu'on met en valeur, c'est aussi un des éléments, mais ce n'est pas le cœur du roman. Mais pourquoi néanmoins, Samantha Bailly, vous avez tenu à, comme les autres auteurs présents à cette tribune, stigmatiser, je crois très clairement, non pas la foi, non pas la croyance, non pas la volonté de dépasser notre simple condition personnelle, mais le fanatisme religieux.
En fait, tout ce qu'incarne la Cité des Oraisons, et notamment la famille Manérian, on vient de le voir, c'est vraiment une forme de conditionnement. Étant donné que Nouni, elle incarne ce conditionnement, voilà, c'est une jeune femme qui n'a vécu que dans ses livres, que dans ses oraisons. Elle côtoie au quotidien en fait un aspect extrêmement morbide, puisque la cérémonie d'oraison consiste à enfoncer un médaillon en fait dans le mort pour en extraire une substance. Donc elle est quand même face à quelque chose qui est un peu sinistre, mais elle est comme aveuglée par tout ça, et on lui a toujours dit que pour réussir dans la vie, c'est ce qu'elle devait faire. C'est une sorte de plan de carrière, comme on l'a vu dans l'extrait, qu'elle doit suivre voilà, à la lettre. Et finalement, le fanatisme religieux soulève pour moi vraiment deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on va toujours nous dicter de faire dans notre vie, puisque Nouni a, voilà, comme nous tous, une espèce de destin tracé. Et ce destin tracé, il l'est pour nous à différentes échelles. Ça peut être notre famille, ça peut être la société tout court, ça peut être notre milieu social. Et on va suivre deux jeunes femmes qui vont s'opposer à ce qu'on a décidé pour elles et qui vont prendre en main ça. Et le second aspect, c'est dans la religion aussi ce qu'on va nous pousser à croire et ce qu'on va nous dire qui est vrai ou non. C'est comme on disait tout à l'heure, ce qu'on nous impose finalement. Et la quête de Nouni, ça va être aussi une quête spirituelle qui consiste à petit à petit renoncer à certaines choses auxquelles elle croyait et à essayer en fait de comprendre et d'accepter la mort de sa sœur en épousant un autre point de vue et en acceptant la différence et l'altérité. Et à travers le voyage, qui est quand même une étape extrêmement classique mais qui fait partie de l'initiation, elle va découvrir ses altérités et ça va la renvoyer à finalement ce qui l'a façonné et tout ce qui a pu l'aveugler pendant des années.
Bien voilà, on va terminer après avoir attaqué sur les fanatiques, sur des paroles d'espoir et de réconciliation. Et Ken Scholz nous a donné tout à l'heure, je vous remercie, une belle leçon d'espoir et de réconciliation justement. On peut changer parfois du pire pour aller vers le meilleur, en tout cas c'est ce qu'on essaie tous de faire. Merci pour cette jolie leçon de vie et merci à nos auteurs pour leur roman. Pierre Bordage avec cette superbe série de space opéra, La Fraternité du Panka. Si vous n'êtes pas déjà plongé dedans, allez-y, c'est du vrai space op et c'est des personnages extrêmement attachants. Vous les trouverez évidemment aux éditions La Talente. Toujours à La Talente, Le Sang des Sept Rois, Régis Godin, un premier roman qui m'a beaucoup impressionné. Là aussi, un livre que j'ai beaucoup aimé, La Dernière Lame d'Estelle Faye, dans la collection Pandore, la belle collection Pandore des éditions du Pré au Clair. Ken Scholz, Les Psaumes d'Isaac, trois tomes déjà parus, dont Lamentation, qui a obtenu le prix Imaginal et du meilleur roman étranger, et on l'en félicite. Et puis, pour conclure ces cinq ouvrages que je vous recommande, Samantha Bailly, L'Intégrale, chez Brasse Jeune, Oraison, le roman qui a gagné le prix Imaginal des lycées en 2011, le roman de Samantha Bailly, notre coup de cœur 2013. Merci à vous tous.